Le jansénisme à Bayonne et en France, voici une conférence d'Étienne Rousseau-Ploteau enregistrée le 19 novembre 2024 à Saint-Pé-sur-Nivelle lors du congrès des directeurs de pèlerinage. Le jansénisme à Bayonne et en France, Étienne Rousseau-Ploteau.
Bonjour à vous, donc je suis un peu honoré et puis un peu timide devant une telle assemblée de directeurs donc, et aussi de pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un moment de toute sa vie. Et donc, à la demande de François et d'autres paroissiens, puisque je suis donc l'organiste de Saint-André de Bayonne depuis près de 30 ans, on est une paroisse qui a un ordre classé en très mauvais état. Si vous avez l'occasion de croiser mon maire, il faut lui redire qu'il faut le restaurer, que l'église aussi a besoin d'être restaurée. Mais au 19e siècle, à l'époque du jansénisme, il n'y avait pas l'église Saint-André. Vous allez voir par contre que ça a un lien. Hein, ce mouvement assez difficile à décrire, en fait. Le jansénisme, c'est très complexe. Ça a passionné les historiens, ça passionne aussi les intellectuels, bien sûr, les historiens de l'art, les historiens de la littérature. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, notre Société des sciences lettraires de Bayonne nous a fait un colloque important sur le jansénisme. Moi, j'avais présenté quelque chose sur un curé de Bidart, c'est une commune sur le littoral, qui s'appelait Sylvain Pouvreau et qui avait été le secrétaire de Saint-Cyran, le grand animateur du début du jansénisme. Et ce Sylvain Pouvreau, en plus, a été le premier traducteur de nombreuses œuvres en basque, dont par exemple Saint-François de Sales. C'est pour ça qu'on l'étudie beaucoup ici aussi. Mais je ne vous parlerai pas tellement de la langue basque. Donc le jansénisme, c'est une doctrine théologique qui a fini par se révéler assez hérétique. C'est une doctrine morale, c'est un mode de vie aussi pour la plupart des gens qui ont embrassé cet élément. Mais c'est devenu aussi un mouvement de protestation, en particulier de la protestation contre l'absolutisme royal, qui ne commence pas avec Louis XIV, mais commence, vous le savez sans doute, avec Richelieu et Mazarin. Mazarin, le successeur de Richelieu, et le maître de Louis XIV. Et en fait, les personnes qui ont adhéré à ce mouvement, par conviction religieuse, ont fini par se détacher plus ou moins, et même être persécutées. Et ils auraient pu disparaître, mais il se trouve que, très longtemps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, il y a un courant janséniste plus ou moins souterrain, il y a des églises jansénistes, et on peut voir des traces du jansénisme certainement jusqu'au XXe siècle, en particulier dans un certain clergé, même s'ils ne le disent pas exactement. Moi je pense par exemple que les recteurs bretons, on parle des amis bretons, qui vous parlaient en permanence de l'enfer, du purgatoire, etc., qui d'ailleurs, il y a toute une génération qui avait du mal avec ça, parce qu'on ne parlait pas assez de salut. Ça aurait pu être quand même la suite de ce jansénisme, qui est absolument considéré comme quelque chose d'austère. Voilà. Il y a une autre accusation importante sur le jansénisme, c'est le fait qu'il parle de prédestination, et donc ça aussi, ça nous choque beaucoup. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça les rapproche de la théologie de Calvin, qui était normalement leur ennemi, puisque ce mouvement, il part en pleine réforme catholique, application de la réforme catholique, puisque le XVIe siècle, ce sont les grandes réformes, d'abord Luther, 1517, puis ensuite Calvin, essentiellement vers 1540, au moment où se forment les jésuites, dont les statuts sont déposés en 1541, puis ensuite, je ne parle pas des anglicans et des autres éléments, mais les catholiques réagissent avec l'immense concile de Trente, donc, et il est mis en application essentiellement au début du XVIIe siècle, et la France est un des hauts lieux de ce qu'on a appelé parfois la contre-réforme, mais que tous les historiens veulent bien appeler maintenant la réforme catholique, parce que tout ne s'est pas fait contre les protestants. Voilà. Donc c'est un mouvement un peu hétérodoxe aussi, mais qui révèle l'inquiétude spirituelle de toutes les couches de la population. En fait, s'il y a eu les réformes, Luther, Calvin et la réforme catholique, c'est parce que depuis le XIVe, XVe siècle, il y a plus d'individualisme, il y a plus de bourgeoisie. Les gens sont extrêmement inquiets de leur salut et ils ont besoin donc qu'on leur explique, qu'on les prenne en charge. Alors il y a une autre hérésie qui se forme à la même époque, dont je ne vous parlerai évidemment pas, qui est ce qu'on appelle le quiétisme. Tout ça est assez compliqué dans le détail, j'espère que je ne vous emmènerai pas trop loin. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai beaucoup étudié ça, mais c'était il y a plusieurs dizaines d'années, donc J'étais obligé de me replonger un peu, c'est pas si facile. Voilà, donc les origines théologiques de ce mouvement du jansénisme, et il se trouve que Bayonne a eu un petit rôle qui est pas si discutable que ça, mais qui est assez étrange. Hein. Et je vous ai mis ici deux expressions très importantes, hein, qui sont la lutte entre l'idée que, qui vient d'ailleurs de l'étude des Pères de l'Église ou du Testament, entre l'idée qu'on reçoit la grâce et qu'on est prédestiné à recevoir cette grâce, et d'autres théologiens qui pensent qu'il y a une place très importante de la créature humaine, du libre arbitre. C'est pour ça que j'ai mis ces deux mots ici. Cette doctrine enseigne la corruption foncière de la nature, irrémédiablement marquée par la faute d'Adam. L'homme est entraîné irrésistiblement au mal et ne peut être sauvé que par la grâce gratuite de Dieu. Toute condition humaine est donc nécessairement dominée ou par la nature corrompue, ou par la grâce toute-puissante. Je crois que je vous avais écrit ça un peu plus loin, mais... ou par la grâce toute-puissante. C'est la thèse des deux délectations, le fondement du jansénisme, concupiscence et grâce. Et la grâce ne laisse pas la créature passive, heureusement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la grâce qui agit en l'homme. Elle exige la victoire de l'homme nouveau. Il faut qu'il y ait une conversion, qu'on abandonne le vieil homme. Donc le jansénisme, c'est aussi un mouvement de conversion individuelle ou dans des collectivités, dans des communautés, en version totale. L'héroïsme de la perfection s'impose comme précepte impérieux, c'est-à-dire qu'on a le devoir de se convertir pour accepter cette grâce. Voilà. En France, c'est un certain Saint-Cyran qui donc a commencé ce mouvement. Mais avant, déjà, il faut remonter au XVIe siècle. Vous voyez ici la célèbre université de Louvain. Aujourd'hui, il y en a deux. Hein. Il y a Louvain-la-Neuve et celle qui est flamande. En fait, c'est des questions de langue en Belgique. Extraordinairement importante université. Et vous voyez donc à gauche le... Attendez, je vais prendre ma fiche. Voilà. Puissante tradition augustinienne qui met... Alors, donc il y a une tradition augustinienne qui se développe. Et on voit un certain Baius, théologien louvain, qui est condamné justement parce qu'il parle de prédestination, de grâce et de qu'il nie la liberté humaine. Or, c'était le moment où se développaient aussi les jésuites, et les jésuites, très influencés par un espagnol qui s'appelle Molina, eh bien, ils passent au centre quand même la liberté face au salut, en proposant la notion de grâce suffisante qui devient efficace du fait de la liberté humaine. Voilà. On est dans une période où, comme je vous l'ai dit, de bouleversements sociaux et économiques, et les gens sont inquiets, ils ont besoin, mais aussi on exalte de plus en plus l'homme comme un individu autonome, sa volonté de puissance, son aspiration au bonheur terrestre. Cet individualisme se retrouve dans les exercices spirituels, aussi étonnant que ça puisse être. Parmi vous, il y en a peut-être beaucoup qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, parce qu'on demande justement cette lutte personnelle, hein, et ce travail d'évolution, qui mettent l'accent sur le pouvoir de la volonté. Quant à Molina, hein, qui est un peu plus tardif que Baius et qui est son ennemi, le jésuite espagnol, il proclame dans un livre qui s'appelle « La concorde du libre arbitre avec les dons de la grâce » la thèse qui affirme le postulat fondamental de la pleine et entière liberté de l'homme. L'homme a le pouvoir de faire son salut et de transformer sa nature. Et donc, les jésuites de l'époque ont tendance à adopter le molinisme, en suscitant des réactions extrêmement importantes. Et parmi les gens qui font une réaction, vous avez le célèbre... Alors voilà un tableau qui vous montre Saint-Augustin, parce qu'une grande partie de ces débats repose sur l'œuvre de Saint-Augustin. Et ce n'est pas un hasard si je vous mets ce tableau, parce que parmi les grands jansénistes, et le plus grand dans l'art, vous savez sans doute que c'est Philippe de Champaigne. Il y a énormément de très beaux tableaux au Louvre. Voilà un portrait de... Saint-Augustin était souvent... portraituré hein, depuis le 15e, 16e siècle, dans les grands pères de l'Église les plus importants. Et puis voilà, donc celui qui intervient à ce moment-là, c'est le Hollandais Cornelius Jansenius, qui est universitaire à Louvain, entre autres, et qui a été aussi évêque d'Ypres, et qui donc a laissé un manuscrit à sa mort, un manuscrit qui s'appelle l'Augustinus. Et c'est cet Augustinus qui est à la base, finalement, de tout ce qui s'est passé dans le... jansénisme et les oppositions au jansénisme. Quant à son ami qui s'appelle en fait Jean Duvergier de Oranne, c'est un Bayonnais, donc, qui est né en 1581 et qui est issu d'une famille de notables. Dans sa famille, il y a des échevins. Il est à la fois gascon, mais aussi euchecarophone, je ne sais pas comment dire, bascophone, parce qu'il a des origines basques. La Mayonne étant une ville gasconne avec aussi des origines basques. Et à 10 ans, il est tonsuré, puisque la famille le destine à une carrière ecclésiastique. Il obtient une prébende, c'est-à-dire de l'argent pour continuer ses études. C'est assez étonnant, ces systèmes, par rapport à notre civilisation. Mais ensuite, il est ordonné sous-diacre en 1598. Et alors là, vous avez le plus célèbre de tous les portraits de Saint-Cyran, toujours par Philippe de Champaigne. Et là, c'est quand il est déjà assez âgé et assez autoritaire, finalement, dans ce mouvement. Et là, voilà, un autre basque important, c'est Bertrand Deschaux. Il y a le château Deschaux dans la commune de Baïgorry, pour ceux qui connaissent un peu le Pays basque. C'était le château de cette famille. Et lui, donc, il est évêque de 1599 à 1617, c'est-à-dire pendant la jeunesse de Saint-Cyran. Plus tard, il a terminé sa carrière comme archevêque de Tours, c'est un poste extrêmement important. D'autant qu'il était apparenté, comme beaucoup de Béarnais et de Basques, à Henri IV, donc, qui est proche de Louis XIII. Et c'est lui qui protège un peu Saint-Cyran, mais il veut l'envoyer faire des études chez les jésuites. C'est ça qui est assez paradoxal. Et de Vergès-de-Roanne continue alors, à Agen d'abord, à Paris ensuite, où il obtient sa maîtrise de théologie. Il va ensuite à Louvain, et où il arrive en 1600. Et là, c'est une université tenue par les jésuites à l'époque. Mais comme il se passionne pour la patristique et les anciennes traditions de l'Église, bien, il se rapproche en fait du fameux Jansénus. Hein. Quand il revient à Bayonne, il est déjà prêtre, il a été curé d'Itsassou, c'est la commune voisine d'ici. Il devient chanoine de la cathédrale de Bayonne en 1608. Et il retourne cependant à Paris, et c'est là qu'il vit avec Jansénus, pour travailler. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés par l'étude des pères de l'Église et surtout de saint Augustin, et ils travaillent énormément de la doctrine, on pourrait dire. Voilà. Finalement, ils reviennent ensuite à Bayonne, et c'est là que Bayonne intervient un petit peu. Ils viennent à Bayonne s'installer dans la propriété de la famille qui s'appelle Camp de Prats. Alors, vous ne verrez pas ça dans votre visite de Bayonne. Mais là, je vous ai choisi une gravure qui, comme vous allez visiter la cathédrale tout à l'heure, j'ai pensé que c'était utile de vous montrer que la cathédrale d'aujourd'hui, elle est très 19e. Ça, c'est l'état de la cathédrale encore en 1860, c'est-à-dire une façade plus ou moins achevée, pas de tour nord, pas de flèche au sud. C'est vraiment une cathédrale qui a été totalement modifiée, enfin, très modifiée. Elle est très belle en soi parce que c'est une cathédrale de style champenois. Pourquoi champenois? Parce que Bayonne, c'était le port qui était le port commercial de la ville de Pamplune. Or, Pamplune, comme vous savez peut-être, royaume de Navarre, au XIVe siècle, le roi était le comte Thibault de Champagne. Et il y a des relations fortes entre la cathédrale de Pamplune, du point de vue architectural, et celle de Bayonne, qui est beaucoup plus petite. Et alors, voilà aussi une image, je pense que vous aurez peut-être le temps de voir le très beau cloître. Cloître qui est assez étonnant parce qu'il servait à la municipalité. Et donc, vous ne verrez plus du tout ça, parce que là, l'architecte... Voilà. Cette partie du cloître a été détruite pour faire une sacristie et une grande chapelle. Et malheureusement, dans la sacristie, il y a le seul portail de cette cathédrale qui soit du XIIIe siècle qui soit conservé. Mais il faut demander à le voir, puisqu'il a été intégré à la sacristie, alors qu'il était l'entrée vers le cloître. Enfin, vous verrez peut-être... Mais c'est intéressant que vous ayez vu la cathédrale avant, puisque c'est une cathédrale très, très 19e, quoi. Un peu, par certains côtés, néo-gothique. Quant à ce tableau que nous avons au musée basque de Bayonne, il vous montre le chœur, comment il était, hein. Et donc avec des boiseries importantes. Il y en a certaines qui sont aujourd'hui dans l'ancien séminaire qui est devenu conservatoire. Mais ça, c'était pas du temps de Duverger d'Or, hein. C'est plutôt 18e siècle. Voilà, donc il y a eu souvent des grands changements. Et je vous montre ici maintenant le gouverneur de Bayonne, parce que c'est une époque, donc le tout début du XVIIe siècle, où les Capucins s'installent à Bayonne. Vous savez que les Capucins, ce sont des franciscains réformés, ils fondent des collèges. Alors il y avait déjà énormément de couvents à Bayonne, les visitandines, les Clarisses, les Carmes, mais qui ont... Tout ça a disparu aujourd'hui, comme dans beaucoup de villes, au XIXe siècle, on a beaucoup détruit. Et les Capucins, ils s'installent justement pour appliquer la réforme, pour appliquer la réforme, et ils vont se trouver à Saint-Thomas. Quant aux Jésuites, qui auraient bien aimé, d'autant que rappelez-vous que les Jésuites, il y a deux des fondateurs, et pas des moindres, qui sont basques. Saint-Ignace, de la ville de Loyola, et Saint François-Xavier, hein, qui est donc du château de Javier, à côté de Sangüesa, en Navarre. Je ne sais pas si vous avez fait le chemin de Saint-Jacques, vous êtes passé pas très loin, hein, de Sangüesa, vous avez de magnifiques églises. En tout cas, ces jésuites pensent pouvoir s'installer avec l'aide de l'évêque Bertrand Deschaux et aussi avec le gouverneur, dont vous avez un portrait ici, à la famille de Gramont, très grande famille à partir du XVIe siècle. Ils pensent pouvoir s'installer et c'est un échec. Et ça nous montre que c'est la ville qui refuse. Alors elle prétend qu'on ne va pas voir et les Capucins et les Jésuites. D'ailleurs, les Capucins ne sont pas favorables aux Jésuites. Et surtout, cette ville, comme beaucoup de villes, c'est des bourgeoisies, des nobles aussi, mais qui sont souvent pas très favorable à l'institution des nouveaux ordres ou bien au clergé. Enfin, c'est toujours très compliqué. Je vous montre ici Bayonne à l'époque, c'est à droite hein, sur ce plan, Bayonne à l'époque où est arrivé Aurane, c'est-à-dire du Verger de Aurane, aujourd'hui on l'appelle Saint-Cyran, mais au Verger de Aurane avec Jansénus, et il s'installe dans le quartier neuf qu'on appelle Bourgneuf. Ici, puisque la propriété était au-dessus de la propriété de Camp de Prats. Vous remarquez la cathédrale avec sa seule tour, son espèce de clocher assez. Bayonne était un énorme port, une ville très active, hein, assez riche, débouché, je vous ai dit, de la Navarre, important. Voilà, alors malheureusement, j'ai que la moitié de ce plan. On ne voit pas la partie où vivait des vergers d'Orane, c'est que la partie qu'on appelle le Grand Bayonne, qui remonte aux Romains, puisqu'il y a des tours romaines à Bayonne, il y a des remparts extraordinaires avec le château, il y avait un donjon qui manifestait la puissance des seigneurs sur la ville, et l'évêque, lui, avait au sommet de la ville avec sa cathédrale. Et sur ces documents, on voit là le plan très complet de cette ville, qui est une ville frontière. À ce moment-là, il y a les guerres avec l'Espagne, qui est extrêmement fortifiée. Voilà, donc le Bourgneuf, il est là. Et vous avez énormément de couvents, qui ont tous des... Ça, c'est la cathédrale. Ça, ce sont des couvents, les Augustins, les Carmes, les Jacobins, c'est-à-dire les Dominicains, dont il reste très peu d'éléments de leur bâtiment. Et ici, les Capucins. Et on va voir ici que, sur ce plan-là... on voit, qui est du XVIIe siècle, on voit le collège. Alors pourquoi je vous le montre? Au pied d'un château, il y a deux châteaux à Bayonne, hein, le château vieux, très ancien, et le château neuf, qui est quand même du XVe siècle, quand les Français ont repris, enfin les Anglais l'ont construit, et puis les Français s'en sont servis pour tirer sur la ville si elle se révoltait. Mais regardons surtout le collège. Vous voyez ma flèche, je pense, hein? Vous voyez le collège. Ce collège... C'est le collège que voulaient les Bayonnais, et il se trouve que Jansénus en est devenu le principal, nommé par les échevins. Et ils vivaient tous les deux, donc avec du Verger d'Aurane un peu plus au nord, à Camp de Prats, et on pense qu'ils ont énormément travaillé la question de la grâce. Hein, voilà. C'est ça qui aurait donné, c'est pour ça qu'on dit que Bayonne est un peu le berceau du jansénisme, parce que ça aurait donné donc le fameux livre Augustinus, qui est la base du jansénisme et qui a été assez rapidement condamné par une partie du clergé, voire même par les autorités. Alors là, je vous montre un dessin où il n'y a pas justement ce collège, c'est plus ancien. Ça, c'est la reconstitution des Jacobins et des Capucins. Ça, c'est les Capucins, ça, c'est les Jacobins. Là, il y a la rue Bourgneuf. Et le collège avait été installé ensuite à peu près ici. Bon, ça, je passe. Et alors, voilà une photo Google Earth qui vous montre le quartier. Donc, tout ça, c'est le Bourgneuf. Les Jacobins, c'était ici. Mais ça a été remplacé par un hôpital et ensuite un lycée. Les Capucins, c'était ici. Tout ça a disparu. Au moment du Second Empire, on a construit une immense église qui est donc l'ancienne église de François de Mesmé. Il a été curé là 15 ans et moi, je suis l'organiste depuis 30 ans de cette église, qui est une église qui est très belle, hein, enfin très belle, qui a été très belle en néo-gothique, et elle est mise sur le collège exprès pour écraser l'hérésie janséniste, en fait. Parce que si on la regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'elle correspond à tout ce qu'il y a de plus catholique, doctrinal et orthodoxe, en quelque sorte. C'est très, très intéressant. Il n'y a rien qui dépasse, si on peut dire, par rapport à une théologie dans cette église de néo-gothique. Vous verrez dans la cathédrale que des plus belles choses de la cathédrale, en fait, ce sont des peintures qui sont dans le chœur, qui viennent d'être restaurées. C'est absolument magnifique. Qui vous montrent tous les saints et saintes. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, c'est ça, très bien. Et regardez ici la plus ancienne photo de l'église Saint-André. qui n'a plus de flèches, on les a démontées. Et il y avait encore là l'église de Saint Thomas, qui était celle des Capucins, et peut-être aussi du collège, ça on ne sait pas très très bien en détail. L'église Saint Thomas a été détruite, il ne reste que l'église Saint-André avec ses flèches. À droite, on voit une tour qui vous montre le Château Neuf. Cette ville a été très longtemps dans des remparts. Et voilà l'état aujourd'hui. Donc c'est là qu'il y a eu le collège Jansénus du Verger de Oran. On travaillait pendant plusieurs années avant de retourner à Paris. Et là, je reprends un peu, je sors un peu de Bayonne donc, pour vous dire que donc, ces deux amis travaillent énormément à la redécouverte des pères de l'Église parce que ce qu'il n'a pas beaucoup, c'est ce qui s'était installé vers le XIIIe, XIVe siècle, c'était une scolastique qui s'était de plus en plus sclérosée. Et il pense qu'il faut revenir, ça c'est un des thèmes fondamentaux de l'histoire de l'Église, il faut revenir à l'Église primitive. C'est toujours l'idée, la pauvreté, l'Église primitive, c'est un peu leur idée aussi. Donc ils étudient Saint-Augustin avec ses questions de grâce et du libre-arbitre. Puis ensuite, du Verger d'Oran qui a été envoyé auprès d'un évêque à Poitiers, on lui confie, je crois que je l'ai mis ici, on lui confie une abbaye où il n'a pratiquement jamais résidé, hein, l'abbaye de Saint-Cyran, qui existe toujours dans le Berry. J'y suis allé parce que ça m'intéressait. Personne n'a jamais été voir cette fameuse abbaye dans des marécages du Berry, mais il reste encore des bâtiments qui ont été repris, je crois, par une communauté tout à fait récemment. Et donc, quant à Jansénus, il était retourné à Paris, puis ensuite à Louvain. Et après sa mort, quelques années après sa mort, le manuscrit de ce fameux Augustinus, Jansénii, sur la doctrine de saint Augustin, est édité, c'est la date de 1640, c'est très important cette date, pour voir, puisque c'est l'origine du jansénisme. Donc, alors je vous ai déjà parlé un petit peu de toutes les théories qu'il y avait là sur la corruption de l'or, l'Adam face au Christ sauveur, mais... au bout de 2 ans, déjà, l'Augustinus commence à être condamné par Rome. Vous voyez, en 1642, le pape Urbain VIII, on lui dit que c'est finalement un peu hétérodoxe et dangereux, d'autant que les jésuites sont à l'époque encore assez importants et assez influents. Parce qu'il y a aussi derrière toute une lutte avec les jésuites. Donc là, je vous ai déjà un peu dit, en fait, la thèse des deux délectations, cette nature humaine corrompue qui doit être sauvée par la grâce, toute puissante, mais donc on a l'impression de limiter la liberté de l'homme, mais en même temps, si l'homme se convertit, il va faire cette grâce, effuser cette grâce en quelque sorte, il va se perfectionner, et c'est bien ça tout le thème des jansénistes. Toute condition, je vous ai dit ça tout à l'heure, toute condition humaine est nécessairement dominée par la nature corrompue, c'est-à-dire Adam, et la grâce toute puissante, elle nous vient par le Christ, avec la foi. Mais la grâce ne laisse pas la créature passive, c'est-à-dire que la conversion permet de la rendre agissante. Et... c'est pour ça que l'histoire de la prédestination, je n'ai pas envie de vous en parler, parce que c'est tellement compliqué, théologiquement, que je laisse de côté. Alors, quand Saint-Cyran est à Paris, dans ces années 1638-1640, en fait, il est l'ami des plus grands personnages de la contre-réforme, ou de la réforme catholique de l'époque, le landais Vincent de Paul, né... à Vincent, dans la ville qui s'appelle à côté de Dax, donc né là, et qui s'intéresse un petit peu d'ailleurs aussi aux jésuites, même si lui s'est très vite détaché, aux jansénistes. Il s'est très vite détaché et des jansénistes et des jésuites aussi. Ou encore, vous avez, très important pour le jansénisme, parce que beaucoup de ses disciples sont devenus jansénistes, c'est le cardinal Bérulle, voilà, qui avait été le premier à faire venir les carmélites déchaussées, celle de Thérèse d'Avila. Ça se passe à la banlieue de nord-est de Paris, Pontoise. Voilà. Ça se passe à Pontoise et Madame Acari, Marie de l'Incarnation en religion, amène les carmélites. Donc, c'est vraiment une époque extraordinaire du point de vue religieux. Et puis lui-même fonde en 1611, vous voyez, au moment à peu près où Jansénus et Verger d'Oran sont en train de penser leur doctrine, lui, il crée l'oratoire, qui sont des prêtres, qui existent toujours aussi, qui ont eu un grand rôle aussi dans l'éducation. Et là, comme par hasard, c'est un tableau de Philippe de Champaigne. C'est-à-dire que toujours, Philippe de Champaigne est un peu partout. Un autre personnage dont il faut absolument parler pour les jansénistes, c'est un certain Antoine Arnauld, un professeur de théologie de la Sorbonne. On a surnommé le Grand Arnauld, là, parce qu'il y a toute une famille assez nobles, mais pas trop nobles quand même. Ils sont plus entre la bourgeoisie négociante, mais ils ont joué un énorme rôle aussi dans cette aventure des jansénistes. Et même Richelieu, c'est un ami de Saint-Cyran au départ, même s'il finit par le mettre en prison, pour, après qu'il y ait eu la sortie du livre L'Augustinus, hein, donc Philippe de Champaigne réalisa ce triple portrait. Mais Richelieu, il veut asseoir surtout l'absolutisme, et donc il n'a pas très envie qu'il y ait des courants hétérodoxes. Voilà. La réussite du premier jansénisme est due à tout ce genre de personnalité. Je vous en ai cité que quelques-unes. Hein. Et ça devait certainement convenir à cette société. Alors, c'est la société classique à l'époque. Hein. Sachez que l'art classique, c'est de cette époque-là, qui porte les individus à l'introspection, à l'analyse du cœur, l'analyse des passions et des sentiments. Et si vous voyez le mot passion ici, ça va vous rappeler que l'un des très grands jansénistes a été Jean Racine. Voilà. Donc, il y a ce monde est tout autour. En 1643, Antoine Arnauld vient aussi donc, bien sûr, l'abbaye cistercienne de Port-Royal, dont la mère abbesse est en fait la sœur du grand Arnauld, c'est-à-dire Angélique Arnauld, une pure et dure, j'ai envie de dire. Donc elle a réformé, c'est l'époque où toutes les communautés cherchent à se réformer conformément au Concile de Trente. Donc elle réforme Port-Royal, qui a une autorité, tout le monde se rend à Port-Royal, pour prier avec ses sœurs aussi, pour être conseillé. Et Saint-Cyran est aussi le personnage central, en fait, au tout début, à ce moment-là. Voilà. Je vais vous passer aussi le tableau que j'avais choisi pour présenter cette conférence, qui est, en fait, le plus célèbre du jansénisme, mais on ne sait pas que c'est du jansénisme. Au Louvre, vous avez cet immense tableau qui nous montre Mère Catherine Agnès Arnauld. Hein, j'ai fait une faute, d'ailleurs, c'est D à la fin. Et puis, une religieuse qui n'était autre que la fille de Philippe de Champaigne, d'où ce grand tableau. Cette fille qui s'appelle Catherine, enfin qui prend en religion le nom de Catherine de Sienne, hein, Suzanne de Champaigne. Ce tableau s'appelle l'Ex Voto, on est en 1662. Et il se trouve que cette fille de Philippe de Champaigne, arrivée au monastère, peu après être arrivée au monastère, a perdu l'usage de ses jambes et prie beaucoup. Et lors d'une neuvaine, 2 ans plus tard, elle les retrouve et on parle de miracle. Voilà, donc c'est important aussi cette idée que les jansénistes, par leur foi, par leur prière, peuvent arriver au miracle. En tout cas, ce tableau est particulièrement célèbre par sa lumière simple. Hein, c'est un des grands Philippe de Champaigne, de grand format. Les gens qui fréquentent le Port-Royal, il y a aussi d'autres intellectuels que les Arnauld et que Saint-Cyran, enfin que des prêtres comme Saint-Cyran. Il y a par exemple le maître de Sacy qui s'est rendu célèbre, lui, comme intellectuel puisqu'il a traduit la Bible. Et vous pouvez encore, il y a des rééditions de la Bible de maître de Sacy qui a servi un peu de base aux jansénistes. Là encore, un tableau de Philippe de Champaigne. Je regarde un peu l'évolution maintenant. En 1643, c'est-à-dire après la première condamnation de l'Augustinus par Urbain VIII, eh bien, Antoine Arnauld publie « La fréquente communion » ou « Les sentiments des pères », les pères de l'Église, bien sûr, pénitence, eucharistie, où il condamne en quelque sorte la trop fréquente communion en disant que pour aller à la communion, il faut être prêt, il faut... Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout laxiste, on pourrait dire, c'est cette idée-là. Ça restreint un petit peu, donc ça fait scandale auprès d'une partie des croyants qui s'étaient mis, à partir du XVIe siècle, à communier souvent. Au Moyen-Âge, les gens communiaient rarement tous les dimanches. Et vous savez que l'obligation de communion, c'est une fois par an hein, pour un catholique. C'est à Pâques, après la confession. Et ça remonte à 1215, hein, 1200 ans après Jésus-Christ. Hein. C'est le concile de Latran IV qui est très important dans la morale et autres. Et donc ce livre a un grand retentissement, même s'il déplaît énormément à une partie de la société. Et il y a un deuxième personnage qui joue un rôle important dans les publications après l'Augustinus, c'est Blaise Capascal, janséniste très convaincu, génie, hein, à la fois de la littérature, puisque quand il publie les lettres provinciales, en fait, on a dit que c'était la plus belle langue moderne française. Voilà. Donc lui, il avait été converti au jansénisme dès 1628, c'est-à-dire... Non, c'est pas possible. Il est converti parce qu'il lit un texte de Jansénus qui datait de 1628 hein, et qui s'appelle « Le discours de la réformation de l'homme intérieur ». Vous savez que dans l'œuvre de Pascal, il y a l'idée d'une conversion, hein, qu'il y a des pleurs, etc., puisqu'il se convertit très fortement. Et en plus, sa sœur, Jacqueline, contre son avis d'ailleurs, entre à Port-Royal. Mais là où il a joué le vraiment grand rôle auprès des jansénistes, c'est qu'alors qu'il commençait à être extrêmement attaqué, du point de vue politique, voire ecclésial, eh bien, il publie les fameuses lettres provinciales de 1600. C'est un chef-d'œuvre d'ironie, et ça descend les jésuites, en fait. Voilà. Donc, d'ailleurs, on dit que ce livre-là a joué un rôle dans la façon dont on s'est peu à peu méfié des jésuites jusqu'à supprimer l'ordre, enfin la Compagnie de Jésus, en 1773, c'est-à-dire une centaine d'années après, parce que de plus en plus de gens ont dit qu'ils étaient trop laxistes, qu'ils avaient une morale un peu relâchée. Et alors, en fait, l'histoire du jansénisme, sans vouloir trop vous fatiguer, c'est une histoire d'affrontement et de crise. Hein. Mais il y a, derrière ça, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a une forte société marquée par le jansénisme et qui croit être dans la vérité. Voilà, parce que du point de vue politique, par exemple, et Richelieu, et Mazarin, et Louis XIV ont lutté contre les jansénistes, considérant que c'était des contre-pouvoirs pour eux, hein, qui voulaient établir l'absolutisme. Donc, je vous ai mis ici quelques-unes des bulles qui ont... Enfin, il y en a deux qu'il faut retenir, c'est « Cum occasione », et puis la dernière, la plus importante, c'est 1713, c'est 60 ans après avoir la suppression des jésuites, la bulle « Unigenitus » qui abat en quelque sorte le jansénisme. Et après, le jansénisme a survécu un peu différemment. Alors, regardons ça en détail. Donc, en 1653... La bulle coup occasionné du pape Innocent X, qui, semble-t-il, a été un peu manipulé. Enfin, il s'intéressait à ça, mais c'était surtout le pouvoir français qu'il manipulait pour obtenir la condamnation de 5 propositions de l'Augustinus. C'était en fait la troisième condamnation, mais celle-là, elle est extrêmement officielle. Et normalement, les jansénistes ne devaient plus utiliser ce livre. C'était considéré. Alors, il y a eu des tas de débats, je vous laisse, à tel point que les jansénistes ont fini par dire qu'il n'y avait pas ces phrases dans le livre, ou qu'elles n'étaient pas de Jansénus. C'est des débats très longs. Et puis, donc là, je vous montre les lettres provinciales qui sont éditées sous un faux nom, hein, par Louis de Montalté, ce n'est autre que Blaise Pascal. Et puis, donc, Alexandre VII, le pape suivant, lui aussi est troublé par toutes ces histoires qui, en réalité, concernent essentiellement la France. Hein. La France, les Pays-Bas espagnols, la Hollande, assez peu d'autres régions. C'est surtout un phénomène français. Et donc, c'est lui qui succède à 8, et donc il est obligé d'assumer ça, et le fait que les jansénistes disent qu'il y a une question de droit et de fait, et qu'en fait, ce qu'on leur reproche, c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans l'Augustinus les 5 phrases, ou les 5 thèses, les 5 propositions de jansénus. Et tout le clergé doit signer. Or, des évêques se rebellent, et aussi les religieuses de Port-Royal. Voilà. J'essaie. Alors je vais vous montrer un autre tableau de Philippe de Champêtre, parce que c'est encore un autre basque qui était le neveu de Saint-Cyran et qui lui aussi fait partie des grands jansénistes et qui a succédé d'ailleurs comme abbé de l'abbaye de Saint-Cyran à son oncle. Voilà, un personnage dont on parle assez souvent, mais je ne vais pas pouvoir vous développer tout ça. On arrive ici au pape Clément IX. L'idée de Clément, c'est derrière ce prénom de Clément, puisque lui, alors qu'il y a énormément de problèmes politiques internationaux, parce que derrière tout ça, il y a les problèmes politiques importants entre puissances protestantes, puissances catholiques. Par exemple, le fait que Mazarin ou Richelieu aient pris le parti de puissances protestantes pendant la guerre de 30 ans, ça, c'était inacceptable pour les jansénistes. C'est vraiment assez complexe, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais ce Clément IX finit par établir une sorte de paix avec les jansénistes, qui sont en réalité n'ont pas le droit d'être, puisqu'ils n'acceptent pas les bulles, mais qui finalement survivent, et on les laisse en fait exister et presque prospérer, puisqu'ils publient, sont des personnages extrêmement importants de la société à ce moment-là. Et notre crise, alors. Décisive, on pourrait dire, hein, intervient quand un oratorien qui est janséniste, et qui d'ailleurs est mort en exil,
comme beaucoup, hein, d'ailleurs, ils ont quitté la France parfois. Ben celui-là, il édite des réflexions morales, en fait, ce sont des réflexions sur le Nouveau Testament, en 1695, au moment où on avait l'impression que tout allait un petit peu mieux. Et c'est le moment où Louis XIV attaque les jansénistes de front, c'est-à-dire qu'une grande partie d'entre eux sont obligés de s'exiler et d'autres sont en prison. Il faut se rappeler que 10 ans avant, Louis XIV a supprimé l'édit de Nantes de son grand-père, hein, et donc a causé une grande crise dans l'Église protestante en France, qui a été interdite en fait complètement. Mais ça, derrière, c'est l'idée que le roi ne peut pas tolérer autre chose que la stricte orthodoxie catholique derrière. Après, je ne peux pas vous le développer parce que c'est très compliqué, mais il y a aussi des histoires de gallicanisme derrière. Parce qu'une partie de l'opinion, par exemple les parlementaires, certains évêques, ne voulaient pas non plus d'une mainmise autoritaire de Rome sur l'Église de France. Alors ça, c'est une crise qui est parallèle, en fait, on peut dire, mais qui a peut-être aussi été dans ces affaires. Enfin, je dis peut-être, oui, c'est certain, mais c'est très long à développer. C'est vraiment ce 17e siècle. Ce 17e siècle est très compliqué. Donc, Louis XIV, qui se sent menacé, s'oppose aussi aux Gallicans qui avaient fait leur déclaration en 1682 et qui sont condamnés. Et c'est paradoxal, parce que Louis XIV, qui est un roi absolu, finalement, il soutient Rome comme puissance absolue aussi du point de vue des âmes. Les jansénistes sont considérés comme des hérétiques, peu à peu, quasiment comme des protestants. Et les chefs jansénistes se réfugient en Hollande, certains sont emprisonnés. Et puis, donc, Louis XIV s'attaque aussi aux religieuses, il disperse la communauté. Et plus tard, il fait carrément raser, détruire Port-Royal, ce qui fait que Port-Royal, c'est bien un lieu de pèlerinage janséniste, mais il n'y a plus rien à voir sinon une grange. L'emplacement où des jansénistes avaient créé les petites écoles avec des grands intellectuels de l'époque, hein, dont un certain Nicole, les Arnauds aussi. Mais on ne peut plus aller faire de vrais pèlerinages à Port-Royal si on reste janséniste, parce que ça n'existe plus. Voilà, l'autorité est capable, comme ça, de supprimer et de réduire, hein, complètement. Et puis arrive donc, enfin, vous voyez, je résume beaucoup, beaucoup, c'est très complexe en fait. Entre les sociétés. J'ai oublié quand même de dire que ces jansénistes se manifestaient beaucoup par leur vertu. Vertu de charité, austérité, mépris peut-être parfois du corps, mais ce sont des gens d'une très grande religion. Hein, c'est pour ça aussi qu'ils ont toujours eu une certaine sympathie. Enfin, beaucoup de gens leur attribuent beaucoup de sympathie dans leur malheur. Hein. Et voir cette histoire d'hérésie, c'est assez compliqué aussi. Mais en fait, ils sont considérés à partir du début du XVIIIe siècle comme des hérétiques, hein, qui doivent ne plus exister. Et Clément XI, donc deux papes après Clément IX, lui, on lui demande de faire la condamnation du livre de l'oratorien Quesnel, hein, en disant que dans ce livre-là, il y a carrément 101 propositions interdites, en quelque sorte. On ne peut pas y croire, il faut les condamner. Voilà. Et c'est étonnant, donc c'est la bulle Unigenitus en 1713, hein, et qui met un terme normalement à l'histoire du jansénisme, puisqu'après, si on n'est pas, on n'est plus dans le catholicisme, si on continue à croire. Or, au XVIIIe siècle, curieusement, le jansénisme a ressurgi souvent dans une population, dans un monde plus modeste, dans le peuple, on peut dire. Il y a eu des histoires, par exemple, de cimetières à Saint-Médard de Paris, hein, avec le diacre qui s'appelait Paris. Il y a des miracles, il y a des... Alors, le jansénisme s'était beaucoup répandu, en fait, en Champagne, en Lorraine, en Anjou. Hein. Ici aussi, et justement, c'est ça qui est assez frappant, et à un moment, j'avais très envie de creuser le sujet, et j'ai jamais pris le temps, de comprendre que le Pays Basque, vous savez que nous avons un département qui est divisé entre des Béarnais et des Basques. Et au Pays Basque, il est assez clair qu'on n'a jamais ou presque recruté de jésuites. Alors que les jésuites sont fondés par deux Basques. Ça, c'est vraiment une chose que j'aimerais beaucoup que quelqu'un étudie, qu'on étudie. Alors qu'à Pau, en Béarn, il y a des jésuites. Hein. Donc, il y a un collège jésuite qui d'ailleurs va être repris par la maison diocésaine de Pau. J'ai lu ça récemment dans notre église. Et c'est quand même un paradoxe étonnant. Et je pense, enfin moi, bon, je connaissais beaucoup de clergés qui sont un peu décédés aujourd'hui, beaucoup de prêtres me disaient qu'ils se sentaient marqués par le jansénisme, par cette espèce d'austérité, et surtout très hostile en fait au jésuitisme. Donc ça a eu des conséquences jusqu'au 19e, voire jusqu'au 20e siècle, ce courant janséniste. Il est encore important au 18e siècle, disparaît peu à peu au 19e, et on a des traces un peu de ce... Quant aux débats théologiques, à mon avis, ils sont de moins en moins importants, sauf chez les spécialistes. Je me souviens qu'au colloque d'il y a une dizaine d'années, il y avait une japonaise, une tokyoïte, qui nous a fait un exposé sur contrition et attrition. Je n'ai absolument rien compris, mais elle se comprenait. Parce que ce sont ces débats des années 1640-1650 qui sont vraiment très, très... très complexe, à partir des textes justement de ce monde janséniste. Voilà. Moi je me souviens très bien qu'elle disait des choses intelligentes, mais je n'arrivais pas à suivre. Et donc ça intéresse toujours. Alors évidemment, tous les littérateurs s'intéressent à l'œuvre de Pascal, forcément, à celle de Racine. Vous savez que Racine, ses deux dernières tragédies, hein, sont en fait chrétiennes. C'est Esther et Athalie, qui étaient destinées aux dames de Saint-Cyr. Mais il a rompu avec la mythologie à ce moment-là. Mais en fait, quand on lit ces pièces, il y a aussi toujours cette idée du débat entre la passion, entre le devoir, hein, c'est très important. Et quand on voit la mythologie utilisée à l'époque baroque, hein, on peut se dire que souvent, c'était des moyens de parler du christianisme et d'aujourd'hui. Et du coup, ça me ramène aux Jeux Olympiques. Parce que, vous avez vu, quand tout le monde a fini par dire que le tableau avec les queens, etc., on a dit, bon, on est choqué parce que c'est la scène. Et puis quelqu'un a trouvé un tableau qui est au musée d'Agen, je ne sais pas où, j'ai oublié le nom de ce peintre, que personne ne connaissait. Effectivement, ça correspond assez bien. Mais ce qu'il faudrait se dire, c'est qu'en fait, à l'époque baroque, on n'hésite pas à utiliser des thèmes mythologique pour parler du christianisme. Parce que si vous regardez ce tableau, la nappe, c'est la même que la scène de Philippe de Champaigne ou de Léonard de Vinci. Devant, il y a Bacchus, celui qui était joué par le chanteur, là, qui a une grappe de raisin. Et au milieu, et en fait, celui qui est Apollon peut être pris comme le Christ. Hein. Apollon, c'est le soleil. Si vous regardez la cathédrale de Bordeaux, vous avez deux bas-reliefs qui sont de mythologie, avec l'aigle de Zeus. En fait, c'est du baroque, et ça nous parle, en fait, du christianisme. Par rapport Bach, quand il fait certaines cantates profanes, comme il y en a une qui s'appelle Hercule, c'est chrétien en fait. Mais il y a des archétypes mythologiques. C'est pour ça que cette affaire-là, dont on ne parle plus du tout, mais qui a quand même agité beaucoup de gens, je crois que les gens n'ont pas bien saisi, c'est bon, la conviction, hein, je ne suis pas obligé de la partager, n'ont pas bien saisi que en fait c'était bien la scène qui était singée, même si c'était à travers une mythologie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors je ne vais pas développer, donc d'ailleurs je crois que trois quarts d'heure ça vous suffit pour cet exposé dans lequel je ne plonge pas. Si j'aurais pu quand même j'ai des extraits de la condamnation Unigenitus du livre de l'oratorien Quesnel, Pasquier Quesnel, hein, des réflexions morales, et sont condamnés dans les 101 propositions, je vais vous en lire quelques-unes. La lecture de l'Écriture sainte est pour tous, dit ce livre, et ça c'est condamné. Parce que là, c'est pour ça qu'on est toujours un peu aux limites du protestantisme. La 41e proposition, la sainte obscurité de la parole de Dieu n'est pas une raison pour les laïcs de se dispenser de sa lecture. Les chrétiens doivent sanctifier le jour du Seigneur par des lectures pieuses, et en particulier par celles des saintes Écritures. Il est condamnable de vouloir les détourner de cette lecture. Ça, c'est très protestant, en fait. Et c'est une illusion de se persuader que la connaissance des mystères de la religion ne doit pas être communiquée aux femmes par la lecture des livres saints. L'abus de l'écriture et la naissance des hérésies ne vient pas de la simplicité des femmes, mais de la science orgueilleuse des hommes. Ça, c'est condamné. C'est dans le livre. Hein. C'est dans le livre, mais c'est condamné par Unigenitus. Hein. Quatrième, alors il y en a 5, j'en ai que quelques extraits. Enlever des mains des chrétiens le Nouveau Testament ou le maintenir fermé pour eux en leur présentant la manière de le comprendre, c'est fermer pour eux la bouche du Christ. Autrement dit, ces jansénistes réclamaient, un peu comme les luthériens, le droit de lire et de peut-être penser, mais c'est bien sûr dangereux. quelquefois, si on n'est pas éclairé. Nous déclarons, nous condamnons et nous réprouvons les propositions ci-dessus comme fausses, captieuses, malsonnantes, offensantes aux oreilles, pies, scandaleuses, pernicieuses, renouvelant diverses hérésies, en particulier celles qui sont contenues dans les fameuses propositions de Jansénus. Donc la bulle se termine en faisant le rappel de la condamnation de l'Augustinus. Et c'est pour ça qu'on dit que le Jansénus commence en 1640, officiellement, on pourrait dire, 1600, et se termine en 1713. Mais après, il y a des jansénistes quand même. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Merci.
Le jansénisme à Bayonne et en France, vous venez de suivre une conférence d'Étienne Rousseau-Ploteau, conférence enregistrée le 19 novembre 2024 à Saint-Pé-sur-Nivelle lors du congrès des directeurs de pèlerinage.